Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h48, merci d'être avec nous dans quelques instants, les grands débats avec Françoise de Goix, Elisabeth Lévy. Et notre question du jour, nos questions du jour sur les présidentielles et sur le sondage, Éric Zemmour peut-il dépasser dans les intentions de vote Valérie Pécresse qui plafonne? Eh bien pour l'instant vous dites oui à 93%, je rappelle quand même que ce sont des sondages de ceux qui votent sur les réseaux sociaux et sur le compte Twitter de Sud Radio, bien
oui,
entendu.
Et puis l'autre sondage aussi, c'est autour du convoi dit de la liberté, là, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des similitudes avec les Gilets jaunes? On va voir ça tout à l'heure, justement, après 9h, on pourra en débattre. Vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Vous pouvez nous appeler, hein, 0826-300-300. Alors, la ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin, a dit tout à l'heure, il est hors de question qu'on laisse, évidemment, ces camions se déployer. Nous serons fermes, il y aura de la fermeté pour ne pas bloquer la France. Bah, on verra, certains partent d'aujourd'hui de Perpignan, de Bayonne, etc. Je ne sais pas s'il y en a qui partent de Sète où on retrouve André Bercoff. Bonjour André.
Bonjour Patrick.
Bon, André, vous avez pris le train, vous n'avez pas pris de camion, mais vous avez pris le train et pas d'avion non plus, pas de jet privé comme Jean Castex, parce que c'est pas le tout de donner des leçons, mais aussi il faut être capable en fait de respecter les choses. Alors André, vous êtes à 7 aujourd'hui, que vous avez de la chance,
Oui, ouais. Oui, il fait beau et puis de mon hôtel, là où je suis, il y a les canaux, tout ça, c'est très très beau. Et alors vous parlez de convoi de la liberté, pour vous dire qu'on aura une émission, effectivement, quelqu'un peut que ça va partir de Perpignan, mais ça passe par 7. Hein.
Oui, oui.
C'est-à-dire que les convois sont en train de s'ébranler. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, apparemment, il y a beaucoup de réactions, et non seulement sur les réseaux sociaux, mais sur un certain nombre de routiers. On verra, écoutez, il y aura des témoignages, en tout cas, et puis il y aura des témoignages, effectivement, on sera dans la bonne ville de 7, au bistrot du marché, comme vous savez, Patrick, et on aura des entrepreneurs qui vont venir, et alors je vais vous dire, nos appels sur Sud Radio et tout ça, paraît-il une vingtaine à trentaine de gens qui veulent venir,
tout le monde ne peut pas venir, parce qu'il y en a qui pourront venir, évidemment, et dialoguer avec vous, André, et dialoguer, en fait, à l'antenne, tout à l'heure.
C'est pour ça,
et chaque mercredi, André, vous serez sur le terrain dans des villes moyennes, dans des petites villes, des villages et des grandes villes, pour prendre un petit peu le pouls de la France, quoi.
Jusqu'à la présidentielle. Il ne s'agit pas de dire pour qui vous allez voter ou pas, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une espèce de cahier de doléances, en tout cas, de savoir ce que pensent les gens, ce qu'ils ont, de quoi ils ont envie, ce qu'ils rejettent, etc.
Leur priorité.
Pardon ?
Leur priorité,
oui.
Exactement. Leur priorité et surtout vraiment leur ressenti. Leur ressenti par rapport à ce qui se passe. En fait, on va presque. Que vous faites aussi la feuille de température.
Voir
un peu ce que les gens ressentent et voilà. Et rien de mieux que d'être dans un bistrot, dans un café, en parler avec les gens. Et puis on aura aussi évidemment nos faits du jour.
C'est l'émission habituelle avec évidemment cette coloration sétoise. En plus, vous êtes à 7, c'est pas.
Et juste un mot quand même, nous n'oublierons pas évidemment le grand dont on fête le 100e anniversaire de la naissance et le 40e anniversaire de la mort, Georges Brassens.
Comme vous le savez, de Brassens, bien sûr.
C'est le natif de 7 et qui a fait cette supplique pour être enterré justement sur la page de 7, cette merveilleuse chanson, on en parlera aussi.
Oui, bon, donc André Bercoff, on va vous suivre, c'est de 12 à 14 et pas de 5 à 7, évidemment. C'est de 12 à 14, de midi à 14h, mon cher André, tout à l'heure.
Sympathie.
Il n'est pas couché de 5 à 7.
Allez, on vous retrouve tout à l'heure, André, chaque mercredi, et puis Philippe David qui continuera aussi d'aller sur le terrain, et nous aussi la matinale, bien sûr, dans cette dernière phase de la présidentielle. Allez, au 0826-300-300, vous réagissez à l'actualité.
Et c'est Hervé qui nous appelle d'Antony. Bonjour Hervé.
Bonjour Hervé.
Bonjour.
Bienvenue.
Bien, oui, mais je vous remercie. Je réagis à l'actualité. Simplement une petite incise, parce que j'ai entendu qu'André Bercoff était à 7. Il peut très bien, si vous voulez, aussi aller dans un quartier qui est une cité HLM, s'appelle le quartier du Barreau, qui est tenu par la délinquance issue de l'immigration. Non, mais c'est intéressant parce que ça recoupe soit les préoccupations du débat. Bon, je ferme la parenthèse.
Non, mais il ira partout.
D'accord, très bien, très bien. D'accord. écoutez, sur Valérie Pécresse, bon, c'est un peu normal parce qu'elle n'a pas ligne politique, mais vous savez que comme Valérie Pécresse, c'est la partie émergée de l'iceberg de l'ancien UMP, c'est-à-dire qu'ils ont, en fait, ils n'ont pas véritablement réfléchi, ils n'ont pas de ligne politique ferme, et donc c'est normal, si vous voulez, c'est des gens qui, quand vous discutez avec eux, y compris des hauts responsables, ils vous écoutent gentiment, mais en fait, ils n'ont rien à faire parce que ce sont des technocrates. Ouais. Ils pensent que on peut résoudre le problème de la France simplement avec des mesures techniques. Ce n'est pas vrai. Et donc, ils n'ont pas de vision de l'histoire. Quand je les entends parler, je vois bien qu'ils n'ont rien lu, notamment tout ce qui concerne l'islam, monsieur, mais sur la France aussi. Rassurez-vous, ils ne connaissent rien de ce qui s'est passé en 1905.
Et c'est pour ça, Hervé, que vous dites que dans les courbes des intentions de vote, Éric Zemmour pourrait dépasser Valérie Pécresse.
Le problème de Pécresse, oui, c'est qu'elle a pas, ils n'ont pas de ligne idéologique, ils n'ont pas de ligne politique ferme. Mmh. Et donc, à force de ne pas réfléchir, de ne rien lire, évidemment, ils se font doubler par des gens qui ont des convictions, qui ont lu, alors qu'on peut contester. Hein, ouais, mais si vous voulez, qui présentent une vision de la France. Alors eux, ils n'en ont pas parce qu'ils ont abandonné l'histoire. Ouais. L'histoire, c'est très important. C'est important pour les enfants, c'est important pour les adultes. Et quand on abandonne l'histoire, et ben voilà ce qui se passe, tout simplement.
Ouais. Merci, c'est un prof d'histoire qui parle. Voilà. Merci Hervé. Françoise de Goix, Elisabeth Lévy, d'un mot, est-ce qu'il y a cette possibilité, ce risque, et comme le dit Hervé, c'est parce qu'il n'y a pas de ligne suffisamment claire du côté de Valérie Pécresse, notamment.
Non, moi je pense que Valérie Pécresse, elle souffre malheureusement de son miroir, de l'absence de son miroir. Son miroir, c'est Emmanuel Macron. Oui. Et tant qu'Emmanuel Macron n'est pas rentré en campagne, eh bien, Valérie Pécresse ne peut pas trop décoller. Elle n'a pas, comment dirais-je, elle peut pas...
Donc quand il y aura l'entrée en campagne,
je pense déjà que Valérie Pécresse a son grand meeting le 13. Les meetings font des choses parce que les meetings, c'est pas tant pour les gens qui sont à l'intérieur, c'est vraiment parce qu'ils sont extrêmement retransmis. Il va falloir qu'elle accouche de quelque chose pour ce meeting. J'en parlais l'autre jour avec Franck Louvrier. On voit bien tout le travail qui est fait pour qu'elle arrive à se rendre plus... que les gens perçoivent plus qui elle est. Moi, cette course aux petits chevaux me fatigue. On a recommencé. Bon. Et je dis juste... C'est très incertain cette présidentielle. Il y a déjà 3 mois, c'était Éric Zemmour va dépecer tout le monde. Finalement, il est redescendu parce qu'il fait boulette sur boulette. Il remonte, là, ça recommence. Il va dépasser Pécresse et Le Pen. Attention,
Elisabeth Lévy.
Soyons un peu.
Elisabeth Lévy, et vous, qu'en pensez-vous?
Oui, ça va bien se passer, Françoise.
Oui, voilà. Tu peux jouer.
Je vais vous la faire. Je vais te la faire récurrente, celle-là.
Pourquoi? Mais moi, je suis assez
d'accord. Mais c'est pas grave. Suis assez d'accord avec Hervé sur un point, c'est-à-dire moi je suis frappé depuis longtemps. Je sais pas s'il faut parler d'absence de ligne idéologique ou de multiplicité de lignes idéologiques au sein de l'UMP. Depuis très longtemps, je pense que cette espèce d'union de carpe et de lapin, c'est ça, c'est des carpes et des lapins
qu'on
dit.
Hein. Ouais. C'est ça.
Oui, de carpe et de lapin. Ça ne peut pas marcher parce que vous avez dans le même parti, et on peut bien sûr avoir des nuances dans un parti, mais vous avoir dans le même parti des européistes fervents et des souverainistes, si vous voulez, là on a affaire à deux visions du monde, à deux conceptions de la France, à deux conceptions de la nation, et je pense que ça je trouve que voilà pourquoi votre droite est muette en fait.
Ouais.
C'est parce que cette façon de se rassembler, cette façon complètement factice de se rassembler avant les élections. Si vous voulez, je pense que ça trompe pas grand monde. Et par ailleurs, je pense que Françoise l'a dit sans prononcer le mot parce qu'elle veut bien galvauder. Mais pour l'instant, Valérie Pécresse a peut-être un problème d'incarnation. C'est-à-dire, c'est une femme intelligente, mais...
Oui. Allez, dans un instant, on va imprimer avec Éric Revel sur le déficit commercial qui fait tâche quand même pour le bilan d'Emmanuel Macron. On va voir ça en détail. Et puis on reviendra sur tous les autres sujets qui vous interpellent aussi dans l'actualité, bien sûr. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 comme Cécile, ce convoi dit de la liberté. Hein.
Absolument, ce convoi dit de la liberté, pardon. Est-ce que ça ressemble pour vous aux gilets jaunes? Vous dites oui en masse, à plus de 90%. Et vous commentez bien entendu sur notre compte Twitter, on en parlera dans un instant.
Oui, et puis tout à l'heure à 9h30, la vérité en face, la France est-elle menacée par une dictature des vertueux? Le moralement correct, une nouvelle religion, avec les deux auteurs d'un livre qui vient tout juste de sortir.
A tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et tout de suite, Revel en campagne.
Sud Radio présidentielle 2022.
Bonjour Éric Revel.
Bonjour Cécile, bonjour. Françoise, bonjour Patrick,
oh, bonjour tout bonjour le monde. Bonjour
Eric. Alors, l'heure du bilan du futur candidat Macron se rapproche. Hein.
Bah oui.
Parce qu'il a dit que quand même hier, là,
tout va bien,
il
je
fallait
vais bien.
Y songer. Et il songeait à se présenter, en tout cas à déclarer sa candidature, oh, quoique. Bon, alors le niveau record du déficit commercial fait tâche hein, sur ce bilan, parce que le désert industriel français est vraiment très inquiétant, Éric Revel, c'est ce que vous nous dites ce matin.
Félix Mathieu vient d'en parler, le chiffre il est historique, le chiffre il est catastrophique, ça rime. Le commerce extérieur français est négatif de 85 milliards d'euros. Bon, je vous rappelle ce que c'est qu'un déficit commercial, c'est la différence entre ce que nous vendons à l'étranger et ce que nous importons. Alors il y a des facteurs sans doute conjoncturel pour expliquer ce fiasco, comme la flambée de l'énergie, mais aussi des facteurs structurels beaucoup plus inquiétants. La France n'a plus beaucoup d'industrie, mais essentiellement des services. La mondialisation est passée par là, elle nous a fait perdre en trois décennies, écoutez bien, 60% de notre part de marché à l'international. C'est absolument colossal. Bon, c'est une catastrophe qu'Emmanuel Macron a échoué, évidemment, à inverser en 5 ans.
Oui, et sur le bilan énergétique, la question du nucléaire, pour Emmanuel Macron, n'a toujours pas été vraiment très claire. Hein, parce que l'approvisionnement énergétique devient aujourd'hui un vrai casse-tête en France.
Bah oui, on parle même de coupure, hein, pourquoi pas de courant. Hein. 8 réacteurs, je vous le rappelle, vont être mis à l'arrêt en tout. Hein. La production d'énergie nucléaire est en grande difficulté. Et d'ailleurs, si on se souvient bien, sur le sujet du nucléaire, Emmanuel Macron, le roi du en même temps, là aussi, a beaucoup varié. Hein. Lorsqu'il faisait partie de la commission Attali, le futur président de la République regardait de travers le nucléaire. Ministre de l'économie, vous en souvenez sans doute, il a vendu à General Electric, le groupe américain, la branche nucléaire d'Alstom. Il l'a vendu. Et voilà que le chef de l'État, en arrière toute, va sceller demain, à Belfort, le rachat par EDF de cette même activité nucléaire au groupe américain de General Electric. C'est vraiment un peu à géométrie variable la perception que Emmanuel Macron a du nucléaire. Depuis, Macron est devenu plutôt pro-nucléaire hein, et promet la construction d'EPR, ses nouvelles mini-centrales. Alors, on peut le dire, hein, quelle stratégie quand même illisible de la part d'Emmanuel Macron sur cette question du nucléaire. Quelle perte de temps, quelle perte d'argent et quelle perte d'emploi.
Oui. Alors, son bilan est mitigé, évidemment. Est-ce que son nouveau projet présidentiel pourrait effacer cela ?
Alors, je pense qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il va se déclarer, aura eu le temps, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, de peaufiner son projet présidentiel. Et évidemment, il va tenter de mettre sous le tapis le bilan des 5 années précédentes. Il y a des chiffres positifs, mais on a égrené aussi là où ça pêche. Commerce extérieur, c'est un fiasco. Production d'énergie, on est quand même en difficulté. Réforme, qui a été l'un des thèmes majeurs d'Emmanuel Macron, en grande difficulté aussi les réformes. Hein. Reparlons celle des retraites, reparlons de la loi dépendance et du grand âge qui sont restées d'être mortes. Et puis tiens, le bilan de la sécurité aussi, hein, il n'est pas très bon. 69%, vous avez vu dans le sondage IFOP, des Français interrogés sur le bilan sécuritaire de Darmanin et d'Emmanuel Macron le trouvent négatif. L'économie française vit à crédit. Puis vous l'avez dit, le désert industriel est une vraie préoccupation. Emmanuel Macron, candidat prochainement, est attendu au tournant sur ses 5 années de pouvoir. Mais aussi, il en fera pas l'économie sur son bilan.
Ben oui, c'est vrai que cette question industrielle et économique, ce n'est pas toujours très présent en fait dans la campagne. Elisabeth Lévy, vous êtes avec nous, Françoise Degoy et vous au 0826-300-300. Elisabeth, voilà, un petit souci en fait de liaison. Françoise, sur ce bilan économique et puis même l'industrie en fait de la France, on a l'impression qu'on a mis ça pendant des années de côté aussi.
On l'a mis de côté, on a perdu des dizaines de milliers d'emplois industriels. Vous savez, à l'époque quand Arnaud Montebourg est arrivé au ministère du redressement qui avait ce nom délicieux qui fleurait les années 50, du redressement productif. Moi je me souviens, j'étais dans ce gouvernement et il disait, on faisait des réunions à Matignon, il disait il pleut des plans sociaux, il pleut des désindustrialisations de PME en fait, parce que on parle, et vous avez raison Eric, de parler des incohérences d'Emmanuel Macron, notamment sur General Electric, sur Alstom, mais on parle peu moins des petites industries qui sont complètement, comment dirais-je, éparpillées sur le territoire. Et c'est ces petites unités industrielles qui ont fermé année après année et en démembrant complètement. La seule industrie qui tient maintenant sur les territoires, en fait, c'est l'industrie agroalimentaire. Hein. C'est la seule.
Qui est menacée aujourd'hui en Bretagne, de plus en plus.
Hein. Sur la première transformation, elle est surtout, c'est-à-dire les abattoirs. Ouais. Mais en réalité, c'est la seule chose qui tienne. Et c'est vrai que pleuvoir des plans industriels, c'est vraiment, ça pourrait résumer les 20 ans qui viennent de s'écouler. Ouais. Moi, je voulais juste dire que la pandémie a bon dos, c'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte, d'une certaine manière, sert d'énormes cache-sexe, si vous voulez, c'est la forêt, l'arbre qui cache la forêt, si vous préférez, c'est plus joli cette expression, du relatif échec et de l'échec patent, en tout cas dans beaucoup de domaines du quinquennat
Elisabeth
de Macron.
Lévy.
Oui, moi je pense qu'il y a aussi un problème culturel. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rappelez.
C'est-à-dire,
si
mais
vous
dites-nous.
Vous rappelez, je vous explique, il y a quelques années, on nous expliquait que finalement l'industrie c'était très sale, on allait être un pays post-industriel en quelque sorte. Mmh. Si vous voulez, pendant que les Allemands et les Suisses, comme l'a rappelé Eric hier, je crois, continuaient, si vous voulez, à s'occuper beaucoup de leurs industries, eh bien, nous, si vous voulez, on passait dans un espèce de monde fantasmé où on se salirait plus les mains. Et je pense qu'il y a ça. Et la deuxième chose qui relève aussi du culturel, si vous voulez, c'est l'espèce de naïveté, de sottise, de fascination des élites françaises pour la mondialisation. C'est-à-dire, on a accepté l'ouverture des frontières, mais alors, on s'est jeté dedans sans rien protéger. Pendant que les autres, eux, avaient des stratégies, nous, si vous voulez, on a tout bradé parce que nos élites sont d'une naïveté terrifiante, je trouve, là-dessus. Et Emmanuel Macron particulièrement. Parce que Emmanuel Macron, il va nous la jouer tricolore là avant les élections, mais en gros, c'est un poste national, un poste historique, je dirais, et surtout un poste territorial. Ouais. Donc je crains que là-dessus, ça change pas beaucoup, à part pendant les 3 mois de campagne.
On a été même plus loin, Elisabeth, on a même été plus loin parce qu'on a théorisé la mondialisation avec un concept qui était porté d'ailleurs par une partie du patronat il y a une d'années, qui s'appelait une économie sans usine de production, ce que les Américains appellent le fabless, c'est-à-dire que je me souviens d'un Serge Turuc qui était à l'époque patron d'Alcatel. Qui expliquait qu'il fallait mettre nos usines ailleurs, ça n'avait plus d'intérêt, la France allait être l'économie des services, et on s'est aperçu trop tard, évidemment, même si beaucoup avaient tiré des sonnettes d'alarme à l'occasion de la crise sanitaire, qu'en fait on fabriquait plus grand-chose en France. Mais c'est très simple, quand vous ne fabriquez plus grand chose en France, vous ne pouvez plus exporter, parce que vous n'avez plus grand chose à exporter. Et si les services, ça ne s'exporte pas par définition. On peut vendre un modèle de service. ADP vend, Aéroport de Paris vend des modèles d'aéroports ailleurs. Mais pour le reste, quand vous n'avez plus rien à exporter parce que vous n'avez plus d'usine pour produire et que vous avez perdu la balance commerciale, c'est des produits que vous importez. Donc on a perdu tout ça.
Le Japon qui avait décidé, comme la plupart des grandes nations, de faire de la Chine l'usine du monde, en réalité, a changé complètement de stratégie il y a quelques années, Eric. Notamment Toyota, qui s'est remis, Toyota, l'immense constructeur japonais, qui s'est remis à construire des usines sur l'archipel, justement, pour ces raisons-là. Et puis, honnêtement, je fais peut-être un parallèle qui est attiré par les cheveux, mais moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment sidéré dans la semaine qui s'est écoulée, c'est la fragilité des milliardaires de papier. Quand vous vous rendez compte sur les services, sur les nouvelles technologies, que Mark Zuckerberg, en 7 heures de temps, est capable de brûler 30 milliards de dollars parce qu'il a moins d'abonnés sur Facebook. On voit bien aussi le colosse au pied d'argile que représente cette nouvelle industrie du numérique. Moi, je pense que vraiment, réindustrialiser, alors promettre la réindustrialisation, ça n'a absolument pas de sens, mais travailler dans ce sens, à mon avis, ce serait essentiel, et je suis d'accord avec Elisabeth. Je ne sais pas si c'est Welbeck qui disait ça dans une interview que j'avais lue, il disait Emmanuel Macron, sans le critiquer parce qu'il est assez admiratif de l'intelligence du personnage, mais en tout cas sur la stratégie politique, il disait finalement c'est l'enfant chéri de l'élite mondialisée, et comme toujours, je trouve que Welbeck désigne bien les choses, et je trouve que c'était une définition assez juste d'Emmanuel Macron.
Elisabeth Lévy.
Non, moi j'avais une question pour Eric, c'est-à-dire comment vous expliquez, parce que quand vous nous décrivez ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette espèce de...
Parlez bien dans le micro, Elisabeth, on vous entend.
Cette espèce d'aveuglement consistant à abandonner les usines, on se dit que c'est un raisonnement assez simple. Qu'est-ce qui fait que nos élites, particulièrement par rapport aux autres, par rapport à celles des autres pays où on n'a pas fait ça, se sont laissés prendre à cette poudre de perlimpinpin, d'après vous?
Ben parce que je pense qu'on a toujours, je ne vais pas être extrêmement décliniste ou misérabiliste, mais on a toujours un petit train de retard. Donc souvent, et c'est vrai pour toute l'économie du digital et de l'Internet, souvent, on essaie de prendre des trains en marche. On s'est aperçu qu'on n'avait pas beaucoup de ce qu'on appelle les licornes, des startups qui ont bien réussi. On n'avait pas beaucoup de GAFA par définition. Donc en fait, au moment de la bulle Internet, je ne sais pas si vous vous souvenez des années 2000, on appelait ça le click and mortar. Hein. Alors click, c'est le fait de faire du digital, et le mortar, c'est tout ce qui était l'industrie un peu crasseuse, comme vous le dites. Et beaucoup de patrons français sont pas tous. Hein. Il y en a qui ont dit au contraire, l'économie digitale ne mangera pas l'économie solide. Le mortar, mais il y a beaucoup de patrons qui ont dit, mais c'est super moderne, ça va créer de nouveaux métiers, on se lance dans cette économie-là, sans voir qu'on abandonnait des pans entiers de notre industrie. Mais vous savez, c'est quelque chose...
C'est aussi les règles de la mondialisation, Eric. C'est-à-dire qu'on a quand même mis les salariés, français et les ouvriers, notamment, en concurrence avec les Chinois, etc. C'est-à-dire, si vous fermez les frontières, que vous protégez rien, effectivement, un patron qui veut faire du profit va installer son usine ailleurs.
Bien sûr, mais ça remonte à très loin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Valéry Giscard d'Estaing était président de la République, on avait commencé, sous son septennat, à abandonner la machine-outil. Vous vous souvenez? C'était le secteur de la machine-outil. Bon, c'était plus très important de construire de la machine-outil. D'ailleurs, les Allemands ont repris toutes ces parts de marché souvent. La machine-outil, ça produit des outils. Vous voyez, les outils, ça sert à faire des produits. Voilà. Donc déjà, là, on avait un petit sujet, mais ça s'est accéléré absolument de manière incroyable. Alors, c'est dû aussi au fait qu'on a un coût du travail qui est plus élevé en France. Donc, quand vous avez la possibilité de produire ailleurs, vous le faites parce que vos profits vont croître. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que la plupart des grands groupes, ce qu'on appelle les groupes du CAC 40, leurs employés, leurs collaborateurs, là où ils croissent, c'est pas vraiment en France. Il faut savoir que l'économie française, elle n'est pas tenue par des grands groupes, en réalité, sur notre sol national. Elle est tenue par des PME et des TPE. C'est elles, c'est eux, c'est elles, ces petites entreprises qui
font tourner.
Ce ne sont pas les grands groupes qui, eux, sont des multinationales et qui, donc, sont présentes dans plein de pays. Donc, on a tout ça à reconstruire. Alors, je le dis à chaque fois, ça fait rire, mais on a un haut commissaire au plan qui s'appelle François Bayrou. On aimerait bien avoir de ses nouvelles et notamment de son plan pour redresser la France.
Oui. Merci, Éric Revel. Allez, on va poursuivre dans un instant. Françoise Degois, Elisabeth Lévy et vous au 0826 300 300, si vous voulez réagir à ce qu'on vient de dire, ce déficit colossal et puis ce manque de dynamisme en fait de l'économie française dans certains secteurs, parce qu'il y en a quelques autres où ça marche quand même, mais c'est extrêmement compliqué. Vous pouvez réagir 0826 300 300, ou alors sur les autres sujets dans l'actualité, comme par exemple ce convoi de la liberté qui va partir et qui s'élance en ce moment de Nice, de Perpignan, de Bayonne, de Strasbourg, etc. Est-ce qu'il y aura beaucoup de monde? Et puis, alors, je ne sais pas si vous avez entendu la ministre de la fonction publique, mais elle était ferme. Hein. Ouh là là, on va pas question de laisser les camions s'entasser et bloquer les villes.
Pas de blocage de la France.
Oui, on verra ça. Vous pouvez réagir à ce sujet, 0826 300 300.
Et à partir de 9h30, c'est pareil, vous pouvez vous inscrire. La France est-elle menacée par une dictature des vertueux? On en parlera avec les deux co-auteurs du livre La dictature des vertueux aux éditions Buchet-Chastel. Restez avec nous, il est 9h18.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h21, les débats qui continuent dans le studio avec Françoise Degois, Elisabeth Lévy, Éric Revel. Vos appels 0826 300 300, et on part à Anglette.
Oui, alors juste avant de partir à Anglette, qui est avec nous?
C'est François.
C'est François, bonjour François.
Eh ben non, pas de bol. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. C'est Christian d'Anglette.
Eh ben c'est Christian.
Ah bah alors, bonjour Christian.
On avait dit pas les Christians, on avait dit des François ce matin, mais pas
Christian. Et puis surtout, pas des Christians d'Anglette.
Voilà, c'est ça. Bon, on vous prend quand même, Christian.
Christian, alors je crois que vous vouliez réagir sur le convoi de la liberté. Juste avant, je voudrais quand même que vous écoutiez la ministre de la fonction publique, qui était mon invitée, Amélie de Montchalin, ce matin, où je lui ai posé la question. Et regardez ce qu'elle a répondu quand je lui ai dit, mais alors comment vous allez faire? Est-ce que vous craignez ou pas? Est-ce qu'il y a des similitudes avec le mouvement des Gilets jaunes?
Nous serons extrêmement fermes car nous ne pouvons pas tolérer que le pays soit bloqué.
Ça veut dire ferme, ça veut dire immédiatement déloger les camions s'ils commencent à bloquer.
Gérald Darmanin l'a dit,
ouais.
Nous ne tolérerons nulle part des blocages de routes, des blocages de villes. On n'est pas dans un pays de blocus.
On n'est pas dans un pays de blocus. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Christian ?
Eh bien, écoutez, déjà, hein, c'est beaucoup d'appels parce que je vous écoute très tôt le matin.
Oui.
Et donc, c'est elle, je vais m'adresser, elle s'en foutra, mais je sais. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il faut aujourd'hui jouer la provocation et dire aux gens ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils ne veulent pas faire. Oui. Ça fait 3 ans qu'on nous dit qu'on doit faire ou pas faire. Et je pense, et retenez bien la date, je pense que je ne me tromperai pas, ça va être un chaos, ça va être très, très dur car ça va se lâcher. En plus, on a un gouvernement qui provoque, parce que c'est de la provocation, hein. Cette méthode. La liberté, ça reste la liberté. Les gens ont le droit de manifester. Et s'ils n'arrivent pas à s'en faire entendre dans les rues parce qu'il y a des matraques qui tombent, ben les camions, ça va être un peu autre chose. Ça va être compliqué. Alors, moi, je supporte pas, franchement, je supporte pas cette façon de s'exprimer au niveau du gouvernement actuel, n'est-ce pas ? Et là, je pense qu'elle va faire le buzz parmi les autres candidats qui se présentent, n'est-ce pas ? Et croyez-moi, ça va faire du papier. Enfin, je l'espère, en tout cas. On ne parle pas aux gens comme ça. On respecte les gens. S'il y a quelque chose qui ne va pas, et on le sait, si ça ne va pas, je vous ai écouté sur les informations, on entend un peu ce qui s'y passe quand même. On ne peut pas rester comme ça, les bras croisés. Et je pense que c'est la fameuse, et vous le savez, vous, journalistes, c'est la goutte d'eau, cette fois-ci, hein, je pense.
Je peux que souscrire, hors idéologie, Christian, je peux que souscrire à l'attitude. Vous savez, les anglo-saxons ont cette expression pour parler de l'attitude du gouvernement. Life is attitude, la vie c'est l'attitude. Et tout dans ce gouvernement, depuis le début, est une erreur d'attitude. Que ce soit Christophe Castaner, Gérald Darmanin, il parlait de peste brune, je ne sais pas si vous en souvenez, au début des Gilets jaunes, hein, au commencement du mouvement. Que ce soit même Emmanuel Macron, qui est un provocateur né, parce que c'est une vraie stratégie politique, je pense qu'il y a une incapacité de s'adresser à ce pays qui est chronique, qui est basée pour moi, hein, je crois que tout ça ne ressort que du principe d'arrogance. Je crois que c'est véritablement ça. Quand on se sent extraordinairement sûr et à la fois fragile, eh bien on a ce type de comportement. Je pense que la phrase d'Amélie de Montchalin sera reprise partout parce qu'elle est symptomatique et symbolique de cette façon de gouverner, de ce gouvernement, c'est-à-dire vraiment, on rigolait avec Cécile qui faisait un geste de jeter de l'huile sur le feu tout à l'heure, hors antenne, mais c'est exactement ça, c'est aussi bête que ça et c'est aussi contre-productif que cela. Oui. C'est insupportable la façon dont ces gens nous parlent, ça me fait penser à la chanson de Souchon, La foule sentimentale. Il faut voir comment on nous parle. Et ben voilà, ouais. Le gouvernement de Macron, c'est il faut voir comment on nous parle depuis 5 ans.
Éric Revel et Elisabeth Lévy. Éric ?
Bah, je pense que c'est une nouvelle faute politique, ce que a déclaré Amélie de Montchalin à votre micro, Patrick. Parce que quand vous dites on n'est pas un pays blocus, pardon, mais d'abord, c'est un trait d'arrogance supplémentaire. Mmh. Quand vous regardez la communication des ministres en ce moment, il y a peut-être une certaine fragilité parce qu'on est, on attend que le candidat Macron se déclare, mais la déclaration de Darmanin face à une de nos consoeurs est du même tonneau, c'est-à-dire que il y a une forme de mépris. Il y a une forme de mépris, il y a une forme d'arrogance suprême. Alors, qu'incarne sans doute Emmanuel Macron, mais cette déclaration de la ministre de la fonction publique tout à l'heure, oui, ça va jeter de l'huile sur le feu, et en plus, ça arrive dans un contexte extrêmement difficile en France. On parlait de la hausse de l'énergie tout à l'heure, mais tout ça peut très bien se cristalliser. Donc quand vous avez une ministre qui vous explique qu'on n'est pas un pays blocus, qu'on va être ferme, mais pardon, un peu plus d'humilité, un peu plus d'écoute, est-ce qu'ils se rendent compte, les ministres qui font de telles déclarations, ils sont en train d'allumer la mèche.
Oui. Mmh. Bah oui, je le pense vraiment. Face à la menace blocus, il faut répondre aussi par la fermeté.
Non, mais on peut avoir une autre attitude. Ah, humble. Ouais. On a des questions de pouvoir d'achat, on a des questions sociales dans ce pays, on a une flambée de l'énergie. On voit bien ce qui est en train de se passer au Canada en plus.
Ouais. Là, c'est autour du pass vaccinal. Hein,
non, mais d'accord. Mais au Canada, le mouvement, il a commencé presque de manière bon enfant. Et aujourd'hui, le gouvernement de Justin Trudeau ne sait plus comment s'en sortir. Parce que les poids lourds bloquent. Ottawa et d'autres grandes villes canadiennes.
Elisabeth Lévy.
Oui, non, mais je suis assez d'accord, sauf que Je suis assez d'accord avec tout ce que vous venez de dire, effectivement. Et puis, je dois vous l'avouer, moi, je suis comme Guy Carlier, cher Patrick. Oui. Amélie de Montchalin et son espèce de suffisance me tape sur le système grave.
Et ça va pas passer crème. Si vous voulez, ça va pas passer crème.
Voilà, et ça va pas passer crème. Non, mais c'est réponse à vos questions, si vous voulez. Vraiment, on a tout fait bien et vraiment, on est géniaux et les autres, c'est vraiment insupportable.
Et les
c'est vraiment le macronisme.
Parce qu'ils sont trop bêtes.
Ouais, ils sont trop bêtes. Voilà, on est trop bêtes. Mais je me demande, si vous voulez, si ils ne joueront pas aussi, si jamais il y a tentative de blocus, etc. Vous savez que c'est aussi un moyen pour eux de rejouer leur grande distinction entre eux. Nous sommes le cercle de la raison, nous sommes les gens raisonnables, etc. Et regardez-moi ces pouilleux populistes qui ne savent que bloquer, en plus avec leurs gros camions. Et vous savez, il y a un film, j'arrive pas à le retrouver, mais vous allez m'aider.
Allez-y.
Avec des camions, justement. Je crois que c'est avec Sylvester Stallone, où il est caché.
Ah oui.
Il doit s'évader. C'est formidable. Et il y a quelque chose, c'est qu'on a envie de sauter dans ces camions, en fait. L'idée de sauter dans un camion et de partir sur la grande route. Moi, je dois dire, ça me fait rêver. Mais bon.
Plus sérieusement. Alors oui.
Non, mais il y a un imaginaire derrière aussi, Patrick. C'est ça que je voulais dire.
Oui. Allez. Merci, on continuera d'en parler et notamment demain évidemment chez André Bercoff aussi ce midi, hein. Je vous rappelle qu'il est en direct de 7 au bistrot du marché entre midi et 14h et il recevra aussi évidemment beaucoup de gens dans l'actualité à 7 au niveau national et puis des auditeurs tout à l'heure comme chaque jour où il vous accueille au 0826 300 300 au téléphone et là cette
fraises.
Fois-ci c'est ça, c'est de 12 à 14
avec une paille.
Donc évidemment. Allez, dans un instant.
Pas de 5 à 7. Non, on peut refaire la blague. Déjà... La super blague de Patrick Roger, il faut quand même la refaire.
Assez de blagues pourries. Hein.
Suscité par un auditeur. Allez,
ça va bien se passer.
Ouais.
Allez, dans un instant, on va revenir sur la vérité en face. Vous savez qu'à partir de 9h30, on a des sujets qui tâchent. Hein. Et la France est-elle menacée par une dictature du vertueux? Bon, on va en parler avec nos deux invités, François Aubel et Soazic Kemener, qui seront avec nous, qui sont co-auteurs de la dictature des vertueux aux éditions. Buchet-Chastel, vous voulez vous inscrire en faux? Est-ce que vous trouvez qu'effectivement il y a une dictature? Vous pensez qu'il n'y en a pas? Vous pensez qu'effectivement il faut aller plus loin? On vous attend 0826
Le moralement correct, 300, une nouvelle 300. Religion. Qu'en pensez-vous?